Chers frères et sœurs, vous me permettrez de m'arrêter plus longuement sur ce troisième serviteur. Parce qu'au fond, le premier et le deuxième, c'est assez simple. Le troisième révèle de manière beaucoup plus approfondie ce qui se passe dans un cœur humain. Et c'est pour ça qu'il est spécialement intéressant. Comme phénomène de miroir par rapport à ce que nous-mêmes pouvons expérimenter. La sévérité du maître paraît vraiment effroyable, mais elle n'est pas arbitraire. Elle vient sanctionner une attitude qui a quelque chose, à vrai dire, d'incompréhensible. Est-ce que ce serviteur qui n'a reçu qu'un talent et qui s'empresse d'aller l'enfouir dans la terre n'est pas en train de creuser sa propre tombe, ce faisant ? Est-ce qu'il n'est pas en train de refuser quelque chose d'essentiel qui s'appelle la vie? Il y a dans ce mouvement d'enterrer ce trésor comme une image de son comportement intérieur plus profond, qui est une renonciation avant l'heure à la vie. Nous savons que ces questions qui touchent la vie, le début de la vie, la fin de la vie, ne sont pas des questions innocentes, elles sont très débattues dans notre société. Il y a quelque chose d'effroyable et de terrible dans cette négation totale, absolue, du don de la vie. Parce que derrière la négation de ce don de la vie, il y a la négation au moins implicite, de celui qui est l'auteur de la vie. Dieu prend l'initiative d'appeler des milliards d'êtres à l'existence. Mais cette initiative, du côté de la liberté humaine, requiert un consentement, requiert un sens de la responsabilité par rapport à ce don reçu. Qui dit responsabilité dit, étymologiquement parlant, réponse. Je reçois. 6 fois nous trouvons le verbe recevoir dans cet évangile. 6 fois nous trouvons le verbe confier, un don qui a été reçu, qui a été confié, mais qui appelle de la part de l'homme une réponse. Dieu attend une réponse. L'évangile de Luc, qui est l'évangile parallèle à celui que nous entendons ce matin, ajoute quelque chose de très important dans la bouche de ce maître. La seule défense que trouve ce mauvais serviteur, c'est de dire « Tu es un maître terrible, j'ai eu peur, j'ai enfoui mon trésor, car je sais que tu moissonnes même là où tu n'as pas semé. » Et le maître, dans l'évangile de Luc, de lui répondre « Tu vas être jugé sur tes propres paroles. Tu vas être jugé sur la compréhension que tu te donnes de ce Dieu que tu considères, toi, comme terrible. Alors que c'est lui le donateur de ta vie. » Nous sommes mis là devant une réalité que déjà les psaumes ont abordée, qu'on retrouve aussi dans les évangiles. À savoir que, pour reprendre la phrase, les mots exacts d'un docteur de l'Église récent, je devrais dire d'une docteur de l'Église, Thérèse de Lisieux, qui dans une controverse avec une de ses sœurs en récréation, cette sœur se faisait le héros de la justice de Dieu. Thérèse ne niait pas cette justice, mais elle comprenait qu'il y avait un attribut de Dieu encore bien plus grand, si on peut parler de cette manière, qui s'appelle la miséricorde. Et elle essayait de convaincre cette sœur en lui disant « Mais oui, oui, bien sûr la justice, mais il y a quelque chose qui englobe encore plus profondément la justice de Dieu et qui s'appelle la miséricorde, qui ne fait pas fi de la justice, mais qui va plus loin et plus profond. » Et devant l'entêtement de cette sœur qui voulait absolument se faire le héros de cette justice de Dieu de façon complètement unilatérale et close, Thérèse finit par lui dire cette phrase que je vous invite à méditer. Vous voulez la justice de Dieu, vous aurez la justice de Dieu. Et elle ajoute, chacun reçoit exactement ce qu'il attend de Dieu. C'est à la fois redoutable et consolant. Redoutable, car si je n'ai que en moi l'image d'un Dieu terrible qui n'attend que la fin de ma vie pour m'assommer, c'est terrible, parce que c'est ça que j'aurai. Si j'ai compris qu'il est mon sauveur, alors c'est une grande espérance, car j'ai raison d'attendre ce salut. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, car les psaumes ont déjà abordé cela. Je n'en cite qu'un seul, le psaume 19, en son verset 5. Que le Seigneur te donne à la mesure de ton cœur. Que le Seigneur te donne à la mesure de ton cœur. Tu recevras de Dieu exactement ce qui exprime le désir le plus profond de ton cœur, ce que tu attends vraiment de lui. Et dans l'évangile de Matthieu, nous trouvons très souvent cette expression de Jésus, avant de faire un miracle, il vérifie toujours la foi de celui qui demande ou de celle qui demande. Et quand il constate que cette foi est présente, sa réponse est simple, qu'il te soit fait selon ta foi. Autrement dit, nous recevons de Dieu à la mesure de notre foi. Et nous trouvons également dans le même évangile de Matthieu une expression qui m'a souvent étonné. C'est à la fin de la guérison du paralytique. Les foules sont en admiration devant ce miracle double que Jésus vient de faire. Car non seulement il a sauvé le corps de cet homme, mais il a sauvé son cœur, que tes péchés soient remis. Et la finale de l'évangile nous dit ces mots. La foule s'extasie devant un tel pouvoir donné aux hommes. On s'attendrait à ce qu'on dise un tel pouvoir donné à Jésus, le Fils de Dieu, qui peut guérir, qui peut remettre les péchés. Non, un tel pouvoir donné aux hommes. Et quel est-il ce pouvoir? C'est celui de la foi. Car Jésus, au début de ce passage de Matthieu, a commencé par être saisi par la foi de ces gens qui font descendre du toit un malade. Il ne l'aurait pas fait s'il n'avait pas un gramme de foi. Donc il y a le don de Dieu, et il y a la réponse que nous donnons. Et cette réponse, elle dépend de nous. Nous ne sommes pas l'auteur, nous ne sommes pas la source, nous ne sommes même pas l'origine du salut que Dieu nous propose, mais il revient à nous de ratifier ce salut, de l'accueillir pleinement. Et c'est cela, finalement, la foi. Nous comprenons alors mieux, sans doute, les paroles sévères de ce maître qui parle de ténèbres, ténèbres extérieures. Mais je crois qu'on peut dire que cet homme qui refuse la vie se place lui-même dans des ténèbres intérieures. Refuser la vie, c'est faire le choix des ténèbres. Et au fond, les ténèbres d'extérieur ne vont être là que pour ratifier ces ténèbres intérieures. Ce n'est donc pas Dieu qui s'amuse à mettre l'homme dans les ténèbres extérieures. C'est l'homme lui-même qui choisit, et c'est terrible à dire comme cela, de se mettre dans les ténèbres. Pour ne pas rester sur cette note des seules ténèbres, revenons quand même au premier et au deuxième serviteur, qui eux s'entendent dire « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître, de ton Seigneur. » Oui, l'expression qui me touche plus particulièrement ici, « Tu as été fidèle pour peu de choses. » C'est tellement peu ce que nous pouvons réaliser par rapport aux dons reçus. Il y a une telle disproportion entre ce que Dieu nous donne constamment par le don de la vie, déjà, mais tous ceux qui en découlent immédiatement, par rapport à la réponse que nous pouvons donner. Et cette réponse, elle est demandée à chacun de nous, là où nous vivons, dans le quotidien de notre vie. Elle est déjà dans la réponse que nous donnons à ce don de la vie, et elle est dans la manière dont nous vivons, tout simplement, ce que nous faisons de notre vie. Et ce qui marque le plus essentiellement notre vie d'êtres humains, ce sont bien sûr les relations que nous vivons. Car c'est dans ces relations que peut passer le mystère de la vie dont nous sommes porteurs. Mais sachons rester modestes. Jésus lui-même rappellera à ses disciples, tout enthousiastes d'avoir réalisé des guérisons, il rappellera « Vous n'êtes que de simples serviteurs ». Là aussi, dans le contexte ecclésial que nous vivons aujourd'hui, chacun à notre place, nous avons à réfléchir. Comment servons-nous ? Dans quel esprit servons-nous ? Est-ce que c'est un service qui ne ressemble pas plutôt à un service pour soi ? Ou bien est-ce que c'est réellement un service totalement désintéressé pour Dieu, avec Dieu ?